en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Jean Dutour, bonjour.
Bonjour madame.
Nous allons faire un portrait de vous, il est temps. En commençant par le commencement, vous êtes né, je crois, à Paris, le 14 janvier 1920, sous le signe du Capricorne. Est-ce que vous y croyez ?
Oui, enfin, ce que je crois, c'est que j'ai une double date de naissance. Je suis né à 2 jours d'intervalle. Car, en fait, il paraît, c'est ce que mon père m'a toujours raconté, que j'étais né le 12 janvier, mais comme il avait un peu tardé, il m'a déclaré le 14 pour ne pas avoir d'amende ou d'embêtement avec l'état civil.
Ah donc vous êtes alors, du 12, vous seriez du 12.
C'est une double ambiguïté, mais je ne suis pas certain que je suis du 12 et je ne suis pas certain que je suis du 14.
Donc ça commençait bien, vous aviez déjà l'esprit de contradiction.
Non, j'avais une vie de contradiction.
Bon, alors commence votre vie. Donc vous avez 20 ans quand vous êtes fait prisonnier au bout de 15 jours de guerre.
Oui.
Comme la prison, ça ne vous plaît pas, bah, vous vous évadez au bout de quelques temps.
C'était un camp on a rassemblé les prisonniers de guerre. Je me suis dit que j'avais fait 15 jours de guerre, c'était qu'on allait partir probablement pendant de longues années dans un camp de prisonniers, et que c'était un peu trop cher payé. Mais j'ai quand même mis un mois avant de me rendre compte que quand on est prisonnier, il faut mettre un pied devant l'autre et s'en aller.
Et c'est facile ?
C'est toujours facile quand on le veut. Pour moi, ça a été très facile, mais j'ai mis vraiment un pied devant l'autre et je suis parti.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que rappelez-vous, dans le goulag de Solzhenitsyn, Solzhenitsyn raconte comment précisément, alors que tout le monde croit qu'il est impossible de s'évader du goulag, un prisonnier met un pied devant l'autre et s'en va, et que les gardiens sont tellement étonnés
qu'ils
ne tirent pas dessus.
Oui.
Donc c'est ce qui vous est arrivé.
C'est un peu la même chose, oui.
Bien, alors donc, vous revenez à Paris, vous passez une licence de philo.
Incomplète.
Incomplète parce qu'il n'y a pas de psychologie.
Oui.
Vous vous êtes rattrapé depuis, pour la psychologie, je veux dire. Et puis, vous vous mariez en 42 avec une dame, mais vous avez un témoin.
Avec une jeune fille.
Avec une jeune fille. Et vous avez un témoin extraordinaire qui est Gaston Bachelard.
Ah oui, il était mon professeur à la Sorbonne.
Ah,
j'étais émerveillé par lui. Il est arrivé dans cette Sorbonne qui était vraiment un nid à poussière. Et tout d'un coup, il a soufflé dessus, tout s'est envolé. J'ai vu pour la première fois de ma vie un homme de génie. J'ai été émerveillé.
Et vous l'avez connu toute sa vie ?
Vous savez, la vie nous a un peu séparés aussi. Je suis entré dans la résistance, je ne l'ai pas revu pendant un an, un ou deux, etc. Enfin,
bon, alors vous entrez donc dans la résistance, vous participez à la libération de Paris, ce qui doit être quand même un souvenir.
Oui, enfin, il y a un film.
Oui.
C'était assez comme le dit le film.
Ah, très bien.
Ouais.
Bon, et puis...
Il y avait un côté farceur dans la libération de Paris. Hein.
Ah bon ?
Oui.
Quel côté farceur ?
Oh, c'était un petit peu... On partait à la chasse aux moches, on serait parti à la chasse aux lapins. Oh, je ne vais pas vous raconter la libération de Paris, j'ai raconté dans
un bouquin
qui s'appelle « Le demi-solde ».
Absolument, bon. Alors, en 1946, vous publiez votre premier livre qui s'appelle « Le complexe de César » et qui obtient le prix Stendhal.
Oui.
Puis, 4 ans plus tard, vous avez le prix Courteline pour Une tête de chien.
Oui.
Alors ça, c'est tout à fait vous de commencer par Stendhal et de continuer par Courteline. Ensuite, vous aurez le prix Saint-Simon.
Ah ben ça, beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, mais entre Stendhal, Courteline et Saint-Simon, c'est un peu toute votre personnalité déjà
Oui, c'est vrai, ça me ressemble assez bien. Stendhal, Courteline et Saint-Simon, c'est vraiment trois façons de penser qui me sont assez familières.
Et puis, les deux premiers titres, Le complexe de César et puis ensuite Une tête de chien.
Non, mon deuxième livre, ce n'était pas Une tête de chien, ça s'appelait Le déjeuner du lundi.
Oui, les deux livres couronnés.
Vous savez, j'étais en Angleterre quand j'ai écrit ça. C'est d'ailleurs un sujet qui est un peu britannique.
Oui.
Et je n'avais aucune idée, j'étais là assez malheureux parce que je n'écrivais pas, parce que je n'avais pas de sous, enfin, pour toutes sortes de raisons. Et puis un jour, je me suis dit, je vais écrire... La première phrase qui me passera par la tête, ce sera la première phrase de mon roman.
Ah.
Alors j'ai dit, qu'est-ce qui me passe par la tête, là ? Et il m'est passé par la tête la phrase que voici. La vie ne serait pas désagréable pour moi si je n'avais pas une tête de chien. Je me suis dit, le roman est fait.
Oui.
Évolution morale et sociale de ce bonhomme-là. Et puis la façon dont il écrit, quand on a une tête de chien. Et en plus de ça, je me suis aperçu que j'avais une tête de chien moi-même en me regardant dans la glace. Alors tout ça m'a été extrêmement fascinant, comme vous pouvez voir.
De chien de chasse, dirions-nous.
ou d'arrêt aussi, peut-être.
Bien. Alors, vous avez longtemps donné, pour un homme sérieux, parce qu'on va parler de vos livres dits sérieux, mais enfin, vous avez longtemps écrit dans François et vous avez participé à l'équipe de Bouvard, des grosses têtes sur RTL.
J'en suis même le fondateur avec Bouvard.
Oui, c'est vrai, vous êtes le fondateur, vous êtes le fondateur d'autres choses dont nous allons parler tout à l'heure, mais enfin, là, donc, c'était une option très grand public à un moment où l'idée qu'un académicien puisse être très grand public, écrire dans François...
J'étais pas académicien quand j'ai fait les grosses têtes.
Oui, c'est vrai, mais quand on regarde votre parcours...
D'ailleurs,
oui.
beaucoup de personnes m'ont dit, si vous voulez être élu, il faut plus aller aux grosses têtes.
Ah bon?
Oui, alors j'ai dit, il n'en est pas question, les grosses têtes, je fais ça avec un ami qui est Bouvard.
Oui.
Et puis en plus ça, me rapporte quelques sous, alors vous n'avez pas... Je vais pas arrêter.
Bon, et alors est-ce que ça vous laisse des souvenirs? Et la chronique à François aussi, c'était quelque chose quand même de relativement...
La chronique à François, oui. Ça s'est fait en plusieurs temps. En 1963, Lazareff m'a demandé d'être critique dramatique de François. Je l'ai été pendant 7 ans. Et c'était une petite critique qui paraissait presque tous les jours. Il y avait tout le temps des générales, tout le temps, et il fallait faire l'article tout de suite. Et au bout de 7 ans, j'en ai eu assez de me coucher tard. J'en ai eu assez d'écrire mon article en rentrant, etc. Et j'ai dit, j'ai dit à Lazareff, mon cher Pierre, j'en ai assez. Nous étions donc en 1970.
Voilà encore un grand bonhomme, Lazareff.
Ah,
donc.
Oui, c'était tout à fait formidable.
Est-ce qu'un Lazareff existerait encore aujourd'hui, dans la médiocrité ambiante?
La médiocrité, elle est là parce que les gens sont médiocres. S'il y avait un Lazareff et quelques personnes brillantes, il n'y aurait plus de médiocrité.
Pourrait-il s'exprimer? C'est ce que je veux dire. Pourrait-il encore créer comme ils l'ont fait?
On a toujours du mal quand on a s'exprimer, quand on a du talent. Toujours difficile. On met tout le temps des bâtons dans les roues.
D'ailleurs, Bouvard, on lui a mis des bâtons dans les roues à un moment donné.
Quand il a été fichu à la porte de RTL, c'est fou. Les gens sont fous. Il y a eu instantanément 2 millions d'auditeurs qui ont tourné le bouton. Radio Luxembourg a été affolée.
Et quel est votre meilleur souvenir, finalement, de ces chroniques des grosses têtes? Avec qui aimiez-vous parler? Parce qu'il y a eu plusieurs grosses têtes.
Vous savez, j'ai vu tout le monde.
Oui, justement.
Je ne sais pas, j'ai tout...
Lesquels vous restent en mémoire avec beaucoup de sympathie ou d'antipathie?
Il y avait une charmante femme qui avait commencé les grosses têtes avec nous lorsque nous avons, il y a 26 ans, ça maintenant aussi non plus. C'était en 76. Ravissante actrice qui s'appelait Catherine Rouvel.
Ah oui, oui.
Qui était en même temps une femme d'esprit, charmante femme. Enfin bref.
Bien, alors revenons aux choses sérieuses, si je puis dire. Et j'aimerais citer votre discours de réception à l'Académie, qui était un merveilleux discours.
Vous êtes gentil.
Où vous écrivez, parmi les catastrophes qui ont jalonné le XXe siècle, il en est une fort amère pour les écrivains, et spécialement les écrivains français. C'est que le langage du corps a remplacé le langage de l'âme. La science et la technique, ces deux gorgones, camouflées longtemps sous le masque bénin du progrès, se sont substituées à ce qui avait nourri les hommes pendant des millénaires et qui préservait leur cœur d'être tout à fait creux et plein d'ordures, l'art. Alors l'art, vous l'avez célébré dans Pluche ou l'amour de l'art, si je puis dire.
Oui.
Alors, est-ce que vraiment ce côté scrogneux que vous avez, puisque est-ce que vous êtes contre le progrès? Est-ce que vous estimez qu'il faut, qui quand même nous a octroyé la lumière, la chaleur, la santé?
Quand on n'était pas, on n'y pensait pas.
Ça, c'est vrai, oui. Oui, alors de quoi nous sommes-nous privés?
Quant à la santé, qu'est-ce que nous avons des vieillards qui pullulent et qui se réveillent en ne se rappelant plus ce qu'ils ont fait il y a 3 minutes?
Regrettez-vous d'avoir traversé finalement presque ce siècle?
Ah oui, je regrette.
Oui?
Ah oui, oui, oui.
Vous trouvez que ça n'est pas un acquis du progrès?
De vieillir tellement? Je pense toujours au mot si drôle de Tristan Bernard qui disait « À 900 ans, Mathusalem n'en paraissait que 600 ».
Oui. Bon, et alors il y a une très belle phrase que vous dites et qui est très profonde, c'est « Le langage du corps a remplacé le langage de l'âme ».
En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'humanité a marché toute son existence, depuis le fond des temps, sur des civilisations agraires et littéraires ou artistiques. Et puis tout à coup, ça me va très bien, les civilisations agraires et artistiques ou littéraires. Et puis tout à coup, il y a eu une civilisation nouvelle, industrielle et scientifique. Et ça ne me va pas du tout. Et je suis très malheureux depuis que je suis né, parce que je suis né en plein dedans.
Vous trouvez que l'âme a disparu, que...
Non, l'âme n'a pas disparu, bien sûr que non.
Que la quête de l'âme, oui.
C'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois les choses d'une façon beaucoup plus terre à terre. L'âme, elle est là. Elle est... L'âme, c'est une fleur. Et quand elle ne reçoit pas sa ration d'eau, ou sa ration de fraîcheur ou de soleil, eh ben, elle se fane.
Et à l'époque des clones, des voyages sur la Lune,
On n'est pas de ça.
À votre avis, est-ce que l'homme peut perdurer ?
Quoi, l'homme peut...
Est-ce que l'homme peut perdurer ? Est-ce que l'homme peut rester ? Est-ce que l'homme va se prolonger avec les clones ? Avec, on ne sait pas si les clones ont une âme.
Oh là, j'ai jamais pensé à ces trucs-là. C'est des trucs pour gamins, ça.
Oui. Oui, vous trouvez ?
Ah oui, je trouve.
Mais pour l'instant, on clone déjà les brebis. Mais enfin, bon. Et vous dites une chose formidable. Vous dites l'homme s'éloigne de la civilisation pour entrer dans une espèce de barbarie étrange.
Ouais.
Faite de confort et de crime.
Eh bien, c'est bien ça, non ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Une sorte de barbarie étrange faite de confort et de crime. Je ne sais pas, ça me semble extrêmement, extrêmement clair. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un certain nombre de valeurs morales ou spirituelles auxquelles il fallait plus ou moins se plier si on voulait être un honnête homme ou une honnête femme. Tandis que maintenant, la barbarie moderne, c'est le... Qu'est-ce que je dis, là ?
Être enfin le maître de la nature, il n'est que le maître de sa mort.
Bah oui, je crois que c'est ça, non ?
C'est, oui, la barbarie étrange faite de confort et de crime, dites-vous.
Ben c'est ça, le confort et le crime.
Oui.
J'ai un peu tendance à penser, en matière de confort, que le seul véritable progrès sur le 19e siècle est l'invention des water closets à chasse d'eau. À part ça, j'en vois pas. Les water closets à chasse d'eau, plus la civilisation qui s'arrête en 1910, par exemple, qu'en 1914, ça me va très bien.
Donc avant la guerre, la première guerre.
Avant la première guerre. Tout a été mal à partir de ce moment-là. Ça a hâté les choses.
Nous allons nous interrompre un tout petit moment avant d'en venir à un second sujet qui est les femmes.
Ouais.
Nous reprenons dans quelques moments avec Jean Dutour de l'Académie française.
Tu te déplaces, tu cours, tu cries, tu voles. Ici, c'est moi qui ai le professeur, tu es l'élève.
Ah, j'ai pigé, monsieur, j'ai pigé. Ah, j'ai compris l'astuce.
J'ai rien fait.
Quel est l'état de l'école en France ? L'instituteur et écrivain Sylvain Grandserre nous donne quelques axes de réflexion dans l'émission École, droit de réponse.
Glacé, E, accent.
Retrouvez le lauréat du prix Louis Cross sur canalacademy.com et téléchargez l'émission en libre écoute.
Comprendre leurs difficultés, qu'on comprenne leurs problèmes, qu'on entende leurs problèmes.
Maman, dès que c'est reparti à l'école, je vais tout tuer, vous allez voir.
Tu viens faire quoi à l'école ?
Regarde. Alors, Jean Dutour, nous reprenons votre avis vert, qui est un parcours de votre vie. Et j'aimerais qu'on parle un peu des femmes. Parce que quand je vous ai demandé de venir, je me suis plainte un peu, puisque je venais de lire Les Perles et les Cochons, là.
Oui.
Et vous ne parlez pas des cochonnes.
Qu'est-ce que vous entendez par les cochonnes ?
Je ne sais pas, c'est un livre assez masculin, un livre... On vous a souvent taxé de misogyne, à mon avis, ce qui est faux, mais enfin...
Oui, complètement, c'est une... Mais vous savez, les gens disent n'importe quoi. Hein.
Oui, mais Les Perles et les Cochons, c'est un peu...
Nous deux, vous êtes une perle et je suis un cochon.
Ah, c'est dans ce sens.
Voilà.
Ah, très bien. Bon, alors là, j'accepte tout à fait. Mon complexe de Circé accepte la chose. Alors, vous êtes un survivant aussi. On va revenir aux femmes, mais vous êtes aussi un survivant, parce qu'avant Ces Perles et Ces Cochons, vous avez publié un livre qui s'appelait Le journal intime d'un mort.
Oui.
Alors, vous vous mettiez déjà à la place d'un mort, ce qui est quand même anticipé pour
beaucoup
les
événements. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est l'antifaust avec ça.
Ah.
Et d'ailleurs, si vous avez lu ce petit livre, c'est un peu une description de ce que je crois être le purgatoire.
Ah.
Une espèce de salle d'attente.
Parce que vous ne pensez pas au paradis direct, pour vous ?
Pour moi ?
Oui.
Oh ben non, moi je suis, comme je viens de vous le dire, vous êtes une perle, je suis un cochon.
Les cochons vont aussi au paradis ?
Oui, mais après peut-être un peu après une période de probation.
Ah bon ? Bon. Mais au fond, vous êtes un survivant, vous n'avez jamais cessé de survivre aux assauts de la bêtise humaine. Vous le dites souvent.
Oui.
Et puis...
Je râle, je pousse des cris. Des cris de douleur, des cris de fureur. Mais ça, c'est mon tempérament.
Mais est-ce que vous croyez qu'on peut la vaincre, la bêtise humaine ? Parce que vous dites quand même quelque chose d'assez optimiste pour un pessimiste que vous êtes. Vous dites que la laideur et la bêtise sont des choses éphémères.
C'est vrai, elles durent que le temps d'une mode.
Oui, mais alors nous voulons la consoler, mais ça recommence dès que c'est fini, Ninini, ça recommence.
Ça recommence avec autre chose.
Donc vous avez pu quand même, de temps en temps, avoir quelques victoires sur la bêtise humaine ?
Oh ben, quelquefois, il y a des malentendus. Alors c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais j'ai toujours pensé, mais ça c'est peut-être aussi pour me donner du courage, j'ai toujours pensé que je commencerais vraiment à être apprécié quand je serais mort.
Bah, Rilke a déjà dit que la gloire était un malentendu. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ?
Et Cocteau a dit quelque chose de juste très profond aussi. Il a dit « Rien n'est invisible comme le talent ».
Ah, mais le vôtre est relativement visible. C'est dramatique, alors.
Vous trouvez ?
Oui.
C'est pour ce que je lis dans les journaux.
Parce que vous lisez les journaux sur vous ?
Oh, bah oui, quelquefois, bien sûr, forcément. Puis mon éditeur me les envoie, c'est par hasard, je vais négliger de les regarder.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on pense toujours qu'un écrivain n'a pas besoin de renommée. Il en a besoin ? Il est blessé ?
Il aimerait bien être reconnu, un écrivain. Il aimerait... Et puis la renommée, ça se traduit aussi par des pépettes.
Ah, les pépettes ont l'air de vous intéresser, vraiment, quand
même. Pas dire, j'ai passé toute ma vie à essayer d'en gagner pour faire vivre ma famille et moi-même. Alors, vous savez, on finit par être marqué.
C'est normal, oui. Alors, vous écrivez aussi, parce que vous avez traduit, pour gagner des pépettes, toujours sans doute, vous avez traduit Truman Capote. Ça, on ne le sait pas beaucoup.
Mes traductions, c'est très particulier.
Oui, alors, qu'est-ce
que c'est ? La première traduction que j'ai faite, c'est celle de Hemingway, Le vieil homme et la mer.
Oui.
J'étais à ce moment-là à Rond de Cuir aux éditions Gallimard, et je faisais des petits métiers, des prières d'insérer des livres en particulier, des choses comme ça. Et Gaston m'a dit, puisque vous savez l'anglais, vous pouvez peut-être me traduire ce bouquin-là. J'ai dit, mais oui, Gaston, bien sûr. Alors j'ai traduit le bouquin, c'était très facile d'ailleurs, c'est un anglais très simple, très rudimentaire.
Et Chesterton, vous l'avez traduit aussi ?
Alors ça, c'est autre chose. Oui. C'est encore autre chose. Et puis alors, j'ai donc traduit Hemingway. Et puis, Hemingway, c'est formidable, parce que c'est un livre qui a un succès absolument fabuleux, c'est « Ce vieil homme et la mer ». Et ça me fait une petite rente, parce que je dois avoir droit à 1,5% sur chaque exemplaire vendu. Alors que j'ai traduit ce bouquin en pestant et en me disant qu'est-ce que je perds mon temps à écrire, à traduire ces trucs-là. Alors, pour ce qui est des autres traductions, j'ai traduit en effet un livre de Truman Capote, mais alors là, il m'a eu à la fatigue. Il m'a eu à l'usure. J'étais à New York, et j'ai rencontré Truman Capote, et nous avons dîné ensemble avec d'autres amis, et il paraissait à ce moment-là, dans le New Yorker, un reportage de Truman Capote sur une tournée de Porgy and Bess de Gershwin en URSS. C'était extrêmement drôle, très amusant, très bien fait, vraiment une espèce de sens de la littérature et du burlesque qui était formidable. Alors je lui ai fait grand compliment, qu'il a accepté avec joie, et j'ai eu la parole que je ne devrais jamais avoir, mais ça, c'est comme ça qu'on apprend la vie. Je lui ai dit, voilà un livre que j'aimerais traduire en français. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il m'a embêté pendant 2 ans pour que j'y arrive. À la longue, je cédais. Et ça m'a embêté. C'était fatigant, ennuyeux à traduire. Pour ce qui est de Chesterton, j'ai traduit quelques nouvelles de lui parce que je trouve que c'est un grand écrivain et un homme de génie. Et puis quoi encore, c'est tout. J'ai rien traduit d'autre.
Oui, mais alors donc, vous avez... Parce qu'on ignore totalement que vous avez effectué un travail de traducteur. Et donc, vous aimez l'anglais, parce que souvent, on croit que ces académiciens français qui piolent tant contre le pidgin n'aiment pas l'anglais. Or, vous écrivez aussi, ce n'est pas l'anglais, et ça, c'est formidable, ce n'est pas l'anglais, comme on le prétend volontiers, qui l'emporte sur le français, mais un idiome forgé par les inventeurs ou les vendeurs des petits et des gros objets qui servent tantôt à apporter du plaisir à la viande humaine, tantôt à la hacher. Ce n'est pas Shakespeare qui tue Racine.
Bah, évidemment.
C'est les prospectus pour les machines à laver.
Ah oui, je n'ai rien d'autre à ajouter.
Bon, parce que vous avez longtemps défendu la langue française.
Mais
vous
je continue, je suis président d'une association qui s'appelle Défense de la langue française.
Oui, vous le dites aussi comme l'étalon or. Alors, vous succédiez à Rueff, donc vous deviez parler de l'étalon or. Mais vous dites vous-même que c'est un étalon or, et vous le répétez souvent sous d'autres formes. Pourquoi la langue française ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécifique, à part d'être notre langue et de correspondre à notre culture ?
Voilà, chère madame, je vous renvoie à Rivarol, il a tout dit là-dessus.
Mais dites-le nous, parce que nous n'avons pas tous lu Rivarol.
J'ai un peu oublié.
Oui.
J'ai un peu oublié, puis j'ai tellement fait l'apôtre pour le français, j'ai tellement... ferraillé pour que les gens cessent de mal parler comme ils le font, que là, j'ai pas le courage de vous en parler.
Bon, nous irons lire les livres que vous dites. Bien.
Et... j'ai publié un petit bouquin chez Plon qui s'appelle « À la recherche du français perdu ». Ça vous amusera peut-être.
Alors, est-ce que vous êtes comme Maurice Druon qui, lui, refuse d'accepter que la francophonie sauve le français ? Je veux dire par là que Druon s'est fait un peu redresser les bretelles par les Québécois,
ouais,
quand il a dit que c'était un dialecte tout à fait différent, etc. Est-ce que vous, la francophonie, vous y êtes attaché ?
Je ne sais pas très bien ce que c'est que la francophonie. Je connais le français et le charabia, mais la francophonie, je n'ai jamais très bien compris ce que c'est.
C'est les peuples du monde qui perpétuent le français sous d'autres formes ou qui en ont hérité.
Oui, quand j'étais petit, j'allais passer mes vacances en Auvergne parce que j'ai une partie de ma famille là-bas. Et j'entendais des Auvergnats qui parlaient leur patois, qui est une espèce de Languedoc à Batardi. Et puis je me disais, et je ne sais pas, est-ce que c'est ça la francophonie ? Est-ce que les Auvergnats sont francophones ?
Le patois n'est peut-être pas la francophonie tout à fait.
Ah,
vous parlez rarement d'ailleurs des humanités, du grec et du latin, dans la genèse du français. L'importance de conserver, parce que vous savez qu'aujourd'hui...
Je ne suis pas un linguiste, chère madame. Je suis une âme sensible et je reproduis mes cris de douleur sur du papier.
Vous dites souvent que vous aimez Mallarmé par-dessus tout.
Oui, il m'a beaucoup aidé, Mallarmé, il m'a appris à écrire. Il y a une chose que j'aime particulièrement chez Mallarmé, c'est ce qu'il appelait ses vers de circonstance. Et j'en ai fait moi des tas, comme lui. Et c'est une gymnastique intellectuelle et sémantique formidable.
Nous allons interrompre une nouvelle fois l'émission. Nous retrouvons M. Jean Dutour dans quelques minutes.
Le photographe Yann Arthus Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts se livre au micro de Canal Académie. Retrouvez-le dans notre émission En habit vert. Il évoque son parcours et les projets de son association Good Planet au service de la défense de l'environnement. Téléchargez également sur notre site l'installation de Yann Arthus Bertrand sous la coupole et découvrez en fin d'émission les détails de son épée originale. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Nous retrouvons Jean Dutour pour un habit vert, l'habit vert de Jean Dutour. Alors, Jean Dutour, avec l'habit, il y a l'épée. Alors, qu'est-ce que c'était le pommeau de votre épée ?
Eh bien...
Vous m'avez dit que c'était assez tarte, je crois.
Pas spécialement le mien.
Ah bon ?
Je trouve que ces pommeaux d'épée qui portent des symboles, je trouve ça assez tarte dans l'ensemble. Enfin, c'est plutôt gentil. Mais moi, là où j'ai fait une erreur, n'est-ce pas ? C'est que j'ai voulu faire une espèce de sabre, ou plutôt de latte de cavalerie. Et c'est un engin terrible qui a 1,50 m de longueur au bout et qui pèse 15 kilos. Alors je ne la prends jamais, j'aurais dû acheter tout simplement une petite épée de cour du 18e siècle.
Ah bon, c'était plutôt la lame que le pommeau qui vous intéressait, vous, pour sabrer ?
Non, ça c'est pas pour sabrer. Ça, la latte de cavalerie, c'est un sabre droit. C'est-à-dire que lorsque la cavalerie chargeait, le cavalier tendait sa latte et allait... Ils s'en servaient comme d'une lance pour la planter dans le ventre de l'ennemi. C'était un peu belliqueux pour l'Académie, où je n'ai pas rencontré de controverses aussi violentes.
Pourtant, vous y êtes entré au lendemain de sauter sur une bombe, si je puis dire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Parce que...
Ce n'est pas un souvenir particulièrement agréable que j'ai.
Non, d'accord, mais vous avez survécu à des vrais ennemis, parce qu'on croit aussi que ce sont des passes de braqueurs.
C'est probablement ce que j'écrivais dans les journaux qui les agaçait. Alors, ils m'ont mis une bombe.
Alors, en juillet, donc, 78, rappelons que c'est le 14 juillet, prise de la Bastille.
Une intention. Ça t'apprendrait à être patriote, mon cochon.
Ah, c'était ça, d'accord.
Oh, je suppose, oui.
Bon, et alors, du coup, vous êtes, enfin, presque du coup, si je puis dire, vous êtes élu à l'Académie. Et,
je m'étais déjà présenté deux fois.
Ah, oui, mais du coup,
là,
convainc les académiciens.
Oui, là, ces braves gens, ils se sont dit, le pauvre type, il a déjà été chassé de chez lui. On va lui donner un foyer de remplacement.
Donc, on vous donne la place de Jacques Rueff, ce qui est assez curieux, le grand argentier Jacques Rueff. Pour ceux qui ne se rappellent plus.
Et il a fallu que je raconte les conceptions et la pensée de Jacques Rueff dans mon discours de réception. Et là, j'aime mieux vous dire que j'ai travaillé.
Vous avez bien travaillé, parce que c'est un très, très beau discours. J'en ai lu plusieurs et c'en est un des très beaux. Et vous écrivez donc, parce que vous parlez de vous à la troisième personne dans une biographie que vous présentez, « Il put constater par la suite combien Voltaire voyait juste en affirmant que cette compagnie, l'Académie française, est toujours une espèce de rempart contre les fanatiques et les fripons.
Ouais.
Est-ce que vous pensez toujours la même chose ?
Ah oui, toujours, c'est formidable. C'est formidable. Il y a une espèce d'intimidation du costume académique sur cette espèce de plèbe grouillante et malfaisante à laquelle on est confronté.
Au fond, vous avez traversé pendant plus d'un quart de siècle l'Académie française.
Écoutez, j'ai été élu en 78.
Et nous sommes en 2006,
Et nous sommes en 2016. Près de 29 ans.
Oui, c'est ça, oui.
Je vais bientôt être doyen d'élection.
Oui, oui. Et alors, est-ce que vous êtes toujours aussi émerveillé ? Voilà, parce qu'on a le sentiment d'un émerveillement.
D'être de l'Académie ? Écoutez, moi j'ai toujours été une espèce de franc-tireur. J'ai toujours été comme ça, quelqu'un qui était considéré comme un individu, qui n'était rien. C'est rien un homme de lettres, ça n'existe pas. Tandis que là, tout d'un coup, je fais partie d'un corps de l'État et d'un corps très respecté, très ancien. Eh bien, je vous assure que j'ai senti instantanément une baisse de ton de la part des ennemis que j'étais parvenu à me faire. Et moins d'acharnement aussi. Peut-être un peu de silence.
Ah bon ?
Ouais.
Et à l'intérieur de l'Académie, est-ce que vous avez découvert des choses insoupçonnées ? Que de l'extérieur, vous ne soupçonnez pas ?
C'est-à-dire ?
Dans le travail des académiciens, dans les gens que vous fréquentiez, est-ce que tout d'un coup vous avez fait des découvertes ? Je suppose, parce qu'en un quart de siècle, est-ce que vivre dans le sein de l'Académie française, participer au
dictionnaire... J'ai eu un peu le sentiment d'être quelqu'un qui est admis dans un cercle très fermé. Et puis que tout d'un coup, devait prendre le genre de ce cercle. Et je crois que je l'ai pris très vite et très bien, et parce que ça me plaisait, parce que j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas moderne, et qui n'avait pas cette vulgarité qui est si particulière à notre époque.
C'est l'élection, au fond. À l'Académie, il y a le sens de l'élection, de la distinction.
Il y a l'élection, il y a la distinction, et puis le fait aussi que l'Académie change les gens.
Vous avez été changé, vous le rebelle.
Moi, je n'ai pas été très changé, mais j'ai observé un certain nombre de gens qui l'ont été.
Ah bon ?
Oui, des gens qui entraient à rouge vif et puis qui très rapidement devenaient roses.
Bien. Et vous êtes alors, comme quand même, vous ne renoncez pas au dur plaisir de, je ne sais plus qui disait, le dur plaisir de déplaire. Vous êtes l'un des fondateurs de Radio Courtoisie, qui a été...
Non, je ne suis pas fondateur.
Vous étiez l'un des fondateurs de Radio
Courtoisie.
Pas
du tout, quand j'ai été mis à la porte de France 3 après 37 ans de service bons et loyaux.
Oui.
Le brave Jean Ferré, qui était directeur ou patron de cette chaîne, m'a dit « Moi, je vous donne un quart d'heure par semaine pour raconter vos petites blagues. »
Ah, je croyais que vous étiez fondateur, cofondateur. Ah bon. Et alors, vous êtes allé à Radio Courtoisie,
Alors, c'est tous les lundis à 7h30 du soir. Il m'appelle et pendant un quart d'heure, il me tire les verres du nez.
Très bien. Mais vous êtes aussi, si j'ai bien compris, membre du comité de soutien de l'unité capétienne. Est-ce vrai, ça ? Avec Gonzague Saint-Brice et Marcel Julien. Vous ne vous rappelez pas y avoir... Figurez-vous que...
J'ai aucun souvenir de ce truc-là.
Ça se dit. Bon, donc... Bon,
enfin, l'unité capétienne, je suis bien, je suis d'accord. Oui,
vous êtes
bien.
D'accord a priori,
Oui, plutôt que l'éparpillement républicain.
Alors, vous avez beaucoup écrit sur de la France considérée comme une maladie.
Oh, ben ça, c'est l'escueil de mes articles, ça.
Oui, le vieil homme et la France. Oui, mais les titres, quand même, le vieil homme et la France.
Ah, ça n'est pas l'article, ça.
Alors, qu'est-ce que la France pour vous ? Est-ce que vous avez toujours cet amour d'une entité que l'on porte à bout de bras, comme dirait De Gaulle ?
On peut aimer Dieu et pas aimer les curés. Moi, j'aime la France, mais j'aime pas les Français. Ceux de maintenant, en tout cas. Ça peut changer.
Mais vous aimez les idées, vous n'aimez pas les êtres humains, si, sans doute.
Bon, si, je les aime, les êtres humains, mais il faut quand même qu'ils me fassent un petit peu quelque chose pour me plaire, non?
Alors, Madame de Montespan a eu pour dernier mot « Comme je me regretterais ».
Ouais.
Si l'homme demain disparaissait, est-ce que vous le regretteriez?
L'homme?
L'homme, le...
Oh bah
l'homme.
Oui, bien sûr, on ne peut pas vivre, je serais tout seul.
Non, est-ce qu'après, bien après votre disparition, si l'humanité disparaissait?
Oh, vous me demandez des choses, comment voulez-vous que je le sache? C'est pas moi qui l'ai créé, l'humanité.
Est-ce qu'un écrivain peut survivre sans lecteur, même a posteriori, la postérité?
Bah, difficilement.
Difficilement.
Je ne vois pas bien comment un écrivain peut survivre s'il n'y a personne pour ouvrir ses livres ou écrire des bouquins sur lui.
Vous avez dit aussi que vous étiez un être, ça c'est assez extraordinaire, vous dites que vous êtes un être, je n'ai pas là la citation, mais que vous êtes un être qui, lorsqu'il a été accepté à l'Académie, volait dans un espace...
Oui, je vois à peu près ce que vous voulez dire.
Vous voyez ?
Oui, on est comme ça dans un espace intermédiaire, on n'a pas de véritable personnalité, on ne sait pas très bien qui on est, les autres non plus. Et puis tout d'un coup, on devient comme un conseiller d'État. Alors ça devient formidable, non ? C'est ça l'Académie.
Bien.
En plus de ça, le bureau est superbe. Hein, j'entends par bureau le palais Mazarin.
Tout à fait. Alors, dans Les Perles et les Cochons, vous avez une anecdote, puisque vous reprenez au fond les fables de La Fontaine et d'Ésope, et vous dites que vous êtes beaucoup plus pessimiste qu'eux, que l'esclave.
Je dis aussi que le noir n'est peut-être pas aux mêmes places.
Voilà. Parce que vous dites à un moment donné, si je me rappelle bien, que Ésope était esclave, La Fontaine anarchiste,
oui.
Et qu'il voit le monde par en bas, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Et que vous, vous vous sentez beaucoup plus pessimiste qu'eux. Alors pourquoi ? Où mettez-vous le noir ?
Dans le changement de civilisation. Eux vivaient dans ces civilisations agraires et littéraires que je regrette tant. Et moi, je suis maintenant dans une civilisation complètement inhumaine, qui est la civilisation scientifique et industrielle.
Et celle des manifs, parce que vous parlez, il y a une très jolie nouvelle, au fond, sur cet homme qui est bibliophore.
Non, bibliophore, oui.
Voilà, c'est-à-dire c'est oui. Ces gens-là qui portent les livres sans jamais les lire.
Oui.
Qui rencontrent Voltaire, enfin François Arouette, un singe nommé oui. François Arouette, et qu'il quitte sa conversation pour aller à la manif. C'est votre vision de ce monde aujourd'hui ?
Enfin, c'est pas... C'est une petite nouvelle de 4 pages. Alors, ma vision du monde d'aujourd'hui, si tant est que j'en ai une, elle doit avoir plus de 4 pages.
Quelle est la force de l'écrivain ? Avec quoi peut-il combattre ?
Avec sa plume, avec quoi voulez-vous qu'il combatte ? Il n'a rien d'autre.
Oui, mais quelle est sa force ? Est-ce que vous pensez que c'est une force ?
C'est la force de son talent. De son talent, de son anticonformisme, de son courage aussi. Car il arrive que les gens aient la frousse. Hein. Moi, j'ai l'impression... C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas heureux de vivre dans la France du 21e siècle. C'est que j'ai l'impression que tout le monde a peur. Et moi, j'aime bien les peuples qui n'ont pas peur.
C'est le pape qui, un jour, est arrivé... Vous vous rappelez Jean-Paul II qui est arrivé en disant « N'ayez pas peur ». Ça serait votre message aussi. Si j'étais une toute jeune fille et que je voulais devenir écrivain, quel serait votre conseil ?
Je vous dirais, ma petite commence par lire tous mes livres et puis après, nous parlerons. Prends des notes, si tu veux.
Et ensuite, nous parlerons ?
Oui, ensuite, nous parlerons.
Heureusement, nous avons pu parler auparavant.
Oui.
Merci, Jean Dutour.